Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDOAS sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis sur le site du festival Est-Ouest qui, comme vous le savez sans doute, aura lieu cette année du 25 septembre au 11 octobre sur le thème de Trieste, carrefour pour l'Europe. Donc pour ceux qui ignorent, Trieste c'est vraiment dans le nord-est de l'Italie. Et j'ai en face de moi Igor Fiati qui est un spécialiste de la Mittal Europa. Igor Fiati, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, d'abord.
Donc, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter et ensuite nous expliquer la raison de votre présence ici même à Die, dans le cadre de ce festival Est-Ouest?
Donc, je viens d'achever ma thèse à Paris, à la Sorbonne, et le sujet c'était bien la Mittal Europa et ses métamorphoses en littérature. Et donc, vous voyez, dans ce concept-là, dans ce cadre-là, Trieste est bien au centre de tout ça. Et c'est pour ça que les organisateurs, je ne sais pas s'ils ont bien fait ou mal fait, mais de toute manière, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé d'intervenir au festival.
Vous avez parlé de Mittal Europa et c'est ce qu'on m'a brièvement introduit en disant que vous étiez un spécialiste de la Mittal Europa. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce qu'est la Mittal Europa?
En effet, la Mittal Europa, c'est un sujet qui divise encore l'Europe entière. Et notamment les académiciens européens ne sont pas d'accord sur ce sujet-là. C'est un sujet qui divise géopolitiquement et politiquement à la fois. Je vous inviterai par exemple à chercher l'entrée Mittal Europa dans les pages de l'encyclopédie Larousse et après de lire l'encyclopédie italienne Treccani et après de parcourir l'entrée Mittal Europa dans l'encyclopédie allemande Brockhaus. Eh bien, vous allez trouver trois entrées complètement différentes. C'est-à-dire, chaque pays, malheureusement, utilise et instrumentalise ce concept. C'est-à-dire, si en France, ce concept est strictement lié aux théories développées par Dr. Neumann en 1915, qui a écrit un bouquin qui s'appelait « Mittal Europa », justement, dans lequel on exprimait l'idée politique d'expansion de l'Empire allemand à l'Est, du Lebensraum, de l'espace vital de l'Allemagne. Par contre, dans l'encyclopédie italienne Treccani, la connotation est plutôt culturelle. Et on parle de l'atmosphère culturelle du Finis Austria, c'est-à-dire la fin de l'Empire austro-hongrois. Donc vous voyez, c'est déjà un concept qui est malheureusement flou. Il reste toujours flou, il demeure flou. Malheureusement, il est instrumentalisé encore par les académiciens même. La connotation que j'utilise, c'est certes la connotation avec une notion culturelle. Donc, lorsqu'on parle de Mittal Europa, la référence absolue, si vous voulez, c'est l'avion du fin du siècle. Donc, au tournant du 19e et 20e siècle, c'est l'atmosphère intellectuelle qui régnait. Et donc, il s'agit d'une richesse, d'une pluralité à la fois ethnique, de religion et culturelle, qui était absolument unique. Vous voyez, ça se détache complètement du concept de, permettez-moi de le dire, d'État-nation. Et donc, à l'histoire des idées de l'Europe occidentale. C'est une particularité tout à fait Mittal Europa.
J'espère que je ne vous parais pas obtus, mais ça ne me parle toujours pas. Alors, qu'est-ce que la Mittal Europa, alors?
La Mittal Europa, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore là. Peut-être aujourd'hui, concrètement, en littérature, c'est une sorte de nostalgie. C'est une sorte de nostalgie pour une époque d'antan. Donc, une époque où, d'après les habitants de l'Empire, on vivait très bien, la qualité de vie c'était meilleure que dans l'époque contemporaine. C'est un peu ça. Et vous retrouvez ça, en littérature notamment, de Trieste jusqu'à la Galicie, c'est-à-dire les provinces les plus orientales de l'Empire. Donc aujourd'hui la Pologne et tout ça.
De l'Empire austro-hongrois.
C'est bien ça, il faut souligner ça. Oui, l'Empire austro-hongrois. Donc vous voyez, même à Trieste, ou à Zagreb en Croatie, ou à Ljubljana en Slovénie, ou à Vienne, ou en Hongrie, ou blablabla, etc., etc., eh bien vous allez retrouver des pages qui sont plein de nostalgie. C'est la nostalgie qui marque ces pages, les souvenirs de l'Empire. Bien sûr, déformé. Il ne s'agit pas d'un reportage au niveau journalistique. Voilà, c'est bien ça.
Donc on peut dire que le début de la Mitteleuropa pourrait être la bataille de 1866 de Sadowa, alors. La première défaite de l'Empire austro-hongrois en face de la Prusse, qui était à l'époque une puissance mineure, mais qui était en train d'émerger fortement. Qui signe un peu le début de la fin de l'Empire austro-hongrois.
Du point de vue politique, oui. Du point de vue artistique, si vous me permettez, c'est-à-dire de la poétique de la Mitteleuropa, peut-être les conséquences de cette défaite se sont concrétisées plus tard dans l'esprit. Donc c'est vraiment la fin du 19e siècle et le début du 20e. Ils ont vraiment marqué les esprits au niveau à la fois culturel et intellectuel.
Alors, quel est l'impact justement de cette Mitteleuropa? Pourquoi en parle-t-on et en quoi ça nous intéresse, nous pauvres béotiens?
Je pense que derrière tout ça, il y a un pouvoir de fascination habsbourgeoise, justement. C'est-à-dire, cette idée, ce concept nous fascine et fascine notamment les écrivains de l'espace de l'Europe centrale. Et car c'est strictement lié, si vous voulez, à un mythe littéraire, bien sûr. Donc le mythe de l'Empire austro-hongrois, le mythe de l'époque des Habsbourg.
Donc dans toute une partie de la littérature de ce centre de l'Europe, entre l'Autriche, le nord de l'Italie, la Prusse, etc., il y a un courant nostalgique de cette époque. On parle de Sicile, hein, l'impératrice, etc.
Oui, c'est bien ça. Et il y a ça, c'est peut-être un peu... C'est comme un fleuve karstique, vous voyez, que pendant l'histoire, on le retrouve parfois, il y a des affleurements, des habsbourgismes, hein, entre guillemets, et parfois, sa portée disparue. Selon les circonstances à la fois géopolitiques et politiques qu'on vient de citer tout à l'heure.
Toujours actuel de nos jours.
Si, je pense, oui. Si. Tout à fait actuel, car vous voyez, notamment dans la contemporanéité qui est caractérisée malheureusement par une crise à la fois économique et esthétique, j'oserais dire. Et alors, l'époque des Habsbourg, l'époque de l'Empire, la Mitteleuropa, justement, ça constitue un refuge. Cette idée, c'est une idée dans laquelle on peut se réfugier et trouver un abri. Un abri pour nos esprits et un abri intellectuel. À vrai dire, c'est une époque dans laquelle on n'avait que des certitudes. Maintenant, c'est plus l'incertitude qui règne, ça me paraît. Côté travail aussi, je ne sais pas, la précarité qui caractérise nos jours.
Toutes les sociétés à l'époque étaient gouvernées par des monarchies d'ordre absolu, d'origine divine. Enfin,
il y avait aussi ça, mais concrètement, il y avait aussi un niveau de vie qui était... très élevé économiquement aussi. Je veux dire, non, je me permets de dire, spécifier le cas de Trieste. Eh bien, l'épanouissement de la ville a été garanti sous les Habsbourg. C'est-à-dire, c'était les premières portes de la monarchie. Et donc, vous vous rendez compte que dans le cadre politique de l'Empire, Trieste était très important. Par contre, dans le cadre italien, Trieste est devenue une ville tout à fait périphérique et elle a perdu sa centralité d'antan.
Avec juste un petit bémol que pour certaines classes sociales, le niveau de vie devait effectivement être supérieur, mais peut-être que pour le bon peuple, comme on dit, je ne sais pas si, même à l'époque, ils étaient mieux lotis que maintenant.
Oui, je ne veux pas dire ça, vous avez raison à souligner cet aspect. Mais en général, c'est vrai que dans le cadre italien, vous voyez, Trieste était devenue une périphérie, c'était la frontière, quoi. De l'autre côté, c'était le communisme qui démarrait. Et donc, il y avait une frontière nette, claire, et c'était une sorte de Finistère, quoi, non ? Et une dimension dans laquelle la ville était en train de mourir. Ça c'est vrai. Si vous parlez avec les gens de Trieste, les plus âgés notamment, eh bien, ils sont bien nostalgiques de l'époque.
Où Trieste faisait partie de l'Empire austro-hongrois.
C'est bien ça. Et ils vont mentionner, bien sûr, des causes économiques. Pas seulement une nostalgie sans base concrète. C'est-à-dire, ils vont vous dire, eh bien, à cette époque-là, on allait bien. Le port, vraiment, c'était le port plus important de la monarchie. Vous vous rendez compte, c'était le seul port de l'Empire, de la part autrichienne, c'est clair. Et en Italie, le port a perdu complètement l'importance qu'il avait autrefois. Et aujourd'hui... Justement, il y a même la concurrence du port de Capodistria, qui est juste à côté en Slovénie, à 20 km de Trieste. Donc, vous voyez, les choses pour la ville vont mal. Même dans le cadre de l'Union européenne, ça n'est pas en train d'améliorer.
Ouais. Parce qu'en ce moment, outre les reliquats issus de l'Empire austro-hongrois qu'on peut retrouver dans des vestiges archéologiques, enfin, ou en tout cas dans une architecture de qualité, la ville s'est un peu endormie après que l'Italie ait coupé les ponts avec l'Empire austro-hongrois, c'est ça que vous voulez dire, non ?
Oui, c'est bien ça, c'est tout à fait ça, rien plus que ça. C'est-à-dire la politique italienne menée à Rome a eu la tendance à oublier Trieste et la considérer comme une zone de frontière presque militaire. Vous voyez, là, d'un côté, il y avait l'OTAN, de l'autre côté, et il n'y avait que les autres, c'est-à-dire les communistes, quoi. Donc, c'était une zone qui, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, a été fortement militarisée. Et vous voyez, dans ces conditions-là, l'épanouissement économique est presque impossible.
Et de nos jours, il n'y a pas une petite résurgence ?
Peut-être qu'il y a, mais les expectations étaient supérieures par rapport à ce qui est en train de se passer. Juste pour vous rendre l'idée, si vous allez à la gare ferroviaire de Trieste et vous voulez prendre un train pour l'Est, donc pour Ljubljana, qui est juste 150 km de Trieste, ou aller à Vienne, eh bien, il n'y a pas de train. Par contre, à l'époque de l'Empire, vous aviez régulièrement de trains qui menaient de Trieste jusqu'à Vienne, jusqu'à Ljubljana, etc. Budapest. Donc un train, je veux souligner ça, c'est pas seulement un train, tout simplement. C'est une liaison à la fois culturelle et intellectuelle, je pense. C'est-à-dire, déjà, s'il n'y a pas une volonté derrière de rétablir les lignes régulières entre Trieste et l'autre Europe, entre guillemets, eh ben, je pense que, à mon avis, ça c'est déjà significatif.
De toute façon, toute ville qui est coupée d'un arrière-pays par une frontière infranchissable dépérit, ça c'est un classique.
Et c'est bien ça. Vous avez bien souligné ce qu'il fallait souligner. C'est-à-dire, après la chute de l'Empire austro-hongrois, eh bien, Trieste a perdu l'arrière-terre. Et donc, vous voyez, prospérer économiquement sans arrière-terre, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Donc, même dans le cadre de l'intégration européenne, même pas dans ce cadre-là, où l'arrière-terre apparemment a été récupérée, car il n'y a plus l'entière réelle. Il y a Schengen, les gens peuvent se balader sans problème, aller à la mer en Slovénie, rentrer à Trieste. Les Slovens peuvent venir à Trieste et se balader, mais il n'y a pas une volonté réelle d'intégration. C'est vrai qu'à la base, il y a encore, je pense, l'expérience, la mauvaise expérience, la terrible expérience de la Seconde Guerre mondiale, qui a traumatisé la conscience de la ville. Vous savez, on pourrait dire que Trieste a été la victime des nationalismes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la composante slovène, qui est une composante très importante de la ville, eh bien, a été complètement oubliée pendant 45 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un sujet tabou. Il ne fallait pas en parler. Maintenant, il faut dire que les choses vont mieux. C'est-à-dire, il y a au niveau de la municipalité de Trieste et tout ça, il y a une volonté réelle de récupérer quand même l'identité culturelle des Slovènes. Et ça, je pense que c'est déjà très important pour l'avenir de la ville.
Alors, on disait de Trieste, c'était la plus orientale des villes italiennes, non? C'était effectivement la porte d'entrée vers, vous l'appelez Mitte Europa ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vers des pays, la Slovénie, la Yougoslavie, enfin comment s'appelaient ces contrées, mais c'était un pays qui avait cette richesse-là, quoi.
Oui, vraiment, Trieste a joué un rôle très important. Trieste, c'était le centre intermédiaire entre Orient et Occident, c'est vrai. Peut-être Venise a joué le même rôle auparavant, mais après Trieste, à cause de la spécificité ethno-géographique, vraiment a été le pont entre la première Europe, entre guillemets, et la deuxième Europe, toujours entre guillemets. Et la littérature de Trieste reflète tout cela. C'est-à-dire le rapport très difficile entre une littérature majeure, la littérature, notamment la littérature de l'Europe occidentale, et les soi-disant littératures mineures, c'est-à-dire les littératures de l'Europe orientale. Et donc, vous voyez, c'était vraiment un carrefour identitaire, un carrefour culturel, dans lequel l'âme slave, l'âme italienne et l'âme allemande ont réussi pendant quelques siècles à se mélanger et à donner des résultats tout à fait exemplaires et uniques en tant que vrai mélange culturel. C'est pas le melting pot des États-Unis, c'était complètement autre chose. À la base, il y avait une vraie pluralité, et donc c'était pas un communautarisme, si vous voulez, à l'américain.
Ouais. Et ça, c'est plus actuel, ça?
Non, malheureusement, non. Je pense non, c'est-à-dire, comme je viens de le souligner, Trieste a été la victime des nationalismes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a eu des massacres atroces auparavant de la part des fascistes italiens, après de la part des partisans yougoslaves, des Slovènes. Et ça reste toujours un aspect traumatique très difficile à surmonter.
Alors, comment expliquez-vous que le Festival Est-Ouest consacre son édition de cette année à une ville qui, si je vous écoute, n'a plus de raison d'être, si ce n'est par nostalgie, un passé glorieux, ou en tout cas où c'était un vrai carrefour culturel, où il y avait une vraie vie artistique, qui n'a plus de cours de nos jours. Quel intérêt de faire une édition du Festival Est-Ouest sur une ville qui appartiendrait au passé?
Je tiens à féliciter par contre les organisateurs, car je pense que dans le cadre de crise politique au niveau de l'Union européenne, au niveau d'élargissement, au niveau politique, au niveau économique, et bien vraiment pour comprendre les différences entre l'Est et l'Ouest de notre continent, la clé d'interprétation Trieste peut résulter très 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 importante et utile pour comprendre vraiment les difficultés de notre continent, les difficultés de l'Union européenne à bâtir une structure fonctionnelle et vivante. Donc je pense que le choix de Trieste est très approprié. Très approprié, et je félicite encore une fois les organisateurs qui, à mon avis, ont eu une idée tout à fait géniale. C'est-à-dire, c'est bien dans ce cadre de crise qu'il faut comprendre, il faut analyser les fractures de notre continent. Et Trieste représente sans doute une ligne de fracture de notre continent.
Alors pour en terminer avec cette interview, est-ce qu'on peut concevoir justement un avenir pour cette ville qui est à la frontière de plusieurs mondes et de plusieurs époques?
Oui, je pense. Seulement peut-être au niveau politique, au niveau central, mais pas seulement à Rome et à Ljubljana, c'est-à-dire la capitale d'Italie et la capitale de la République de Slovénie. Des choses doivent changer. Il faut absolument un élan, il faut un sursaut d'initiative. Mais les choses doivent changer aussi au niveau européen. Donc je pense que aussi Bruxelles, là-dessus, devrait faire quelque chose, proposer quelque chose concrètement, à partir des lignes ferroviaires dont on a parlé.
Qu'elles repartent de Trieste vers la Slovénie, etc.
Ça serait déjà important.
Bien, monsieur Igor Fiati, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Mais c'est moi, je vous remercie.
Et puis je vous souhaite une bonne continuation et un retour au pays. Vous partez tout de suite là?
Oui, je vais partir tout de suite. Malheureusement, je ne vais pas avoir l'opportunité de profiter de la ville, de la région, mais à la prochaine fois peut-être.
Et bien, je vous remercie et à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Interview.